Allez, on va accueillir comme il se doit Michel Favret. Mais comme on a un générique, allez, place à la musique et on se retrouve avec Michel en direct.
La terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Voilà, comme ça on est dans l'ambiance. Voilà, merci Nico à la régie technique. Allez Michel, déjà bonjour, bienvenue bien sûr à Eau de Radio.
Bonjour Joël.
Voilà, alors 63e chronique astro. Alors avant de vous lancer sur votre chronique, en commençant par notamment l'actualité, redites-nous constellationsetgalaxies.org, ce qu'on peut y retrouver, ce que vous faites dans les grandes lignes. Et on rappelle, hein, c'est important de le souligner, bien toutes les chroniques, ils sont archivés, toutes les chroniques réalisées par vous, Michel, ici à Eau de Radio. Donc, alors rappelez-nous, Constellations et Galaxies.
Constellations et Galaxies, comme je dis à chaque fois, une petite association par le nombre de membres, dont la vocation est la diffusion de la connaissance scientifique, et plus particulièrement dans le domaine de l'astronomie. Et un des, disons, une des animations qui est la plus fréquente, c'est l'utilisation d'un planétarium itinérant qui peut se rendre dans les écoles, les collèges, les lycées ou d'autres structures. Hein, parfois, samedi dernier, j'étais dans une médiathèque, par exemple, à l'occasion de la nuit de la lecture, pour expliquer le ciel, donc souvent à des enfants, mais de temps en temps des adultes, ce que c'est que les constellations, les planètes, les étoiles, etc. Donc on trouve toutes les informations sur le site www.constellationsetgalaxies.org dans la partie planétarium. Et comme vous le disiez, Joël, dans la partie astronomie, hein, il y a des onglets. On trouve à la fois des informations sur le ciel du mois, une rubrique que j'aborde à chaque fois à la fin de la chronique, et toutes les chroniques ont été mises en ligne avec un petit peu la description de quoi on parle. Enfin, je parle, ce qui permet peut-être de choisir, de piquer des chroniques qui paraissent intéressantes aux visiteurs du site.
Voilà, c'est important de le rappeler, puis on le redira bien sûr. Après votre chronique, alors, allez, c'est parti, Michel, pour votre chronique numéro 63. Voilà, la 63e, on a bien compris. Vous avez commencé par l'actualité et quelques petits succès du New Space.
Voilà. Comme je l'ai déjà évoqué plusieurs fois ici, une nouvelle tendance de l'astronautique américaine est l'implication de sociétés privées dont les investissements sont encouragés par des coopérations avec la NASA qui leur sous-traite certaines missions, comme par exemple le ravitaillement de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et prochainement l'envoi des astronautes vers cette station. Le développement de lanceurs ou de capsules habitables par ces sociétés est émaillé de succès, mais aussi d'échecs assez nombreux. Fin décembre, j'avais évoqué le test raté de la capsule CST-100 de Boeing, qui n'avait pas pu rejoindre l'ISS lors de son premier essai de vol aller-retour non habité, et du coup la décision d'abréger sa mission en la faisant revenir plutôt au sol. Et comme on dit, à quelque chose malheur et bon, ce retour anticipé aura permis de réussir son premier atterrissage en douceur le 22 décembre. J'en parle donc avec un peu de retard, mais c'est pour souligner une particularité. On a tous en tête les images de capsules habitées qui amerrissent afin de bénéficier d'un contact un peu moins violent à la surface de l'océan qu'avec un sol dur, comme les Apollo des missions lunaires ou la capsule Crew Dragon de SpaceX, le concurrent de Boeing, qui s'était posé dans le Pacifique le 8 mars dernier après la réussite de son essai non habité d'un aller-retour à l'ISS. Mais la CST-100 est prévue pour se poser sur la terre ferme, comme les Soyouz russes. Et pour cela, après la phase de freinage par parachute, elle largue son bouclier thermique, la protégeant de la chaleur lors de la rentrée atmosphérique à grande vitesse, puis gonfle 6 coussins à peu près 2 minutes avant de toucher le sol, un peu comme de gros airbags pour amortir le choc. Du côté de SpaceX et d'Elon Musk, j'avais rappelé fin novembre l'explosion quelques jours plus tôt de son vaisseau Starship lors d'un test de mise en pression de ces réservoirs, qui faisait suite à l'explosion ayant détruit en avril la capsule habitable Crew Dragon pendant un test moteur au sol. Mais en ce mois de janvier, on peut saluer la réussite d'un essai de cette capsule, ou plus précisément de son système de retour d'urgence en cas d'accident du lanceur au décollage, ce qui n'est pas du luxe si on se préoccupe de la santé des astronautes exposés à de grands risques lors de cette phase critique de toute mission spatiale. Pour ce test, la capsule était propulsée par une fusée Falcon 9, dont on a commandé l'extinction des moteurs une minute après le décollage du Kennedy Space Center afin de simuler une défaillance. La capsule Crew Dragon a réagi correctement en s'éjectant du lanceur et en se propulsant rapidement le plus loin possible pour mettre l'équipage à bonne distance en cas d'explosion de la fusée, et a fini sa course en se posant en douceur dans l'océan Atlantique. De son côté, la fusée a été détruite au lieu d'être récupérée comme le fait habituellement SpaceX, dont les lanceurs sont conçus pour revenir se poser afin d'être réutilisés. La Falcon 9 utilisée pour le test avait déjà été lancée 3 fois auparavant et n'était plus utilisable. Ce test s'est déroulé le dimanche 19 janvier et c'était la dernière étape de qualification de la capsule Crew Dragon par la NASA avant d'autoriser un vol habité vers l'ISS, probablement en avril. Ce serait le premier lancement américain d'un équipage vers l'ISS depuis l'arrêt des navettes spatiales en 2011, tous les vols ayant été assurés depuis par les Soyouz russes, seul lanceur assez puissant pour ces missions.
Alors parlez-nous de la découverte d'un ancien continent sur Mars.
Oui, alors cette découverte est un bon commencement pour cette année martienne 2020, car je rappelle à nos auditeurs que comme tous les 2 ans environ, nous passerons au plus près de Mars en octobre, occasion de la voir très brillante dans le ciel, d'en observer quelques reliefs dans des télescopes, et pour les agences spatiales d'y envoyer leurs sondes pour bénéficier d'un trajet plus court, environ 6 mois, avec des lancements prévus cet été pour une arrivée sur la planète rouge début 2021. C'est une équipe française de l'Université de Paris-Saclay, conduite par Sylvain Boulet, qui a mis en évidence cette structure géologique. En effet, depuis que l'on étudie Mars de près avec des orbiteurs et des atterrisseurs, on a mis en évidence une différence très nette entre l'hémisphère nord de la planète, pour schématiser une grande plaine située à une altitude inférieure à la moyenne, et l'hémisphère sud où l'on trouve des plateaux situés à une altitude supérieure. Ayant mis en évidence l'existence d'eau liquide à la surface dans le passé, il y a environ 3,8 milliards d'années, donc des fleuves, des lacs, un océan, il semblait évident que la région nord avait accueilli l'océan et que les sols actuels devaient correspondre au fond de cet océan, alors que les sols du sud devaient être plutôt continentaux. Mais ce n'était pas aussi simple de savoir quelle était la physionomie de Mars dans sa jeunesse et si des processus analogues à ceux qui ont formé la Terre s'y sont produits, car des modifications importantes ont eu lieu il y a environ 4 milliards d'années avec un gros impact d'astéroïdes, appelé aujourd'hui bassin Hellas, la dépression que ça a creusé, d'à peu près 2200 km de diamètre et dont les bourrelets ont surélevé une partie de l'hémisphère sud et probablement déclenché une activité volcanique qui a pu aussi élever la zone sud. Il fallait donc essayer de voir si la dichotomie nord-sud de Mars pouvait s'expliquer par l'existence d'un continent au sud avant cet événement.
Et comment alors peut-on le savoir aujourd'hui ?
Alors cette équipe a essayé de mettre en évidence les processus géologiques qui conduisent à la formation des continents sur Terre, c'est-à-dire la tectonique des plaques, découverte au début du XXe siècle par l'allemand Alfred Wegener. Pour simplifier, les formations visibles à la surface de la Terre résultent de déplacements de grandes plaques continentales qui flottent, si je peux dire, au-dessus d'une épaisse partie molle, le manteau. À certains endroits, elle s'écarte, comme au milieu de l'océan Atlantique, dont les rives américaines d'un côté, européennes et africaines de l'autre, s'éloignent lentement de quelques centimètres par an. À certains endroits, une plaque plonge sous l'autre en alimentant un volcanisme actif, comme la fameuse ceinture de feu du Pacifique, et elles peuvent aussi parfois entrer en collision, produisant des grandes chaînes de montagnes, comme les Alpes, où la plaque africaine heurte l'Eurasie, l'Himalaya, où le sous-continent indien percute l'Asie. Ces plaques sont plus étendues que les continents qui leur donnent leur nom, car elles comprennent également une partie océanique qui leur est solidaire. Et ces deux parties se distinguent notamment par leur épaisseur. On comprend facilement que la partie continentale est plus épaisse en raison des différences d'altitude des terrains, positives pour les terres émergées, les continents, et négatives sous le niveau de la mer pour les fonds océaniques. Mais cette différence est encore plus importante, car sous les continents, il y a une surépaisseur, un peu comme en miroir de la partie visible. C'est facile à comprendre en prenant l'image très approximative d'un cargo flottant à quai dans un port. Plus on le charge, plus il s'alourdit et plus il s'enfonce dans l'eau. D'une manière analogue, la partie continentale des plaques, plus lourde, s'enfonce aussi plus profondément dans le manteau. L'épaisseur de la croûte continentale est donc maximum sous les chaînes de montagne, jusque dans les 70 km d'épaisseur, alors que sa moyenne est plutôt de 35 km environ et seulement 10 km pour la croûte océanique. L'équipe de chercheurs, conduite par Sylvain Boulet, a donc essayé de mettre en évidence des différences d'épaisseur dans la croûte martienne. Et pour cela, ils ont utilisé les mesures du champ de gravité réalisées par différentes sondes en orbite autour de la planète, ce qui a permis de mettre en évidence une zone de plus forte épaisseur dans le sud, dans les 50 à 55 km d'épaisseur, par rapport aux 30 à 35 km de l'hémisphère nord. De plus, cette zone présente une composition chimique différente, comprenant du potassium et du thorium, minéraux qui se retrouvent principalement dans les zones continentales sur Terre. Enfin, par chance, le rover Curiosity se trouverait au bord de cette zone continentale martienne et il a effectivement repéré des roches apparentées aux roches différenciées terrestres, comme les granites, typiques des continents. Il y a donc de bonnes chances que cette étude ait permis de mettre en évidence la présence d'un ancien continent dans l'hémisphère sud de Mars, ce qui pourrait être confirmé par l'envoi d'une sonde dans cette zone pour y mener des analyses plus approfondies de ces roches, mais aucune mission de ce type n'est prévue à court terme. La confirmation de l'existence de continents martiens serait importante pour montrer que des mécanismes semblables à la tectonique des plaques se seraient aussi déroulés sur cette planète, même s'ils se sont arrêtés ensuite, car plus petite que la Terre, elle s'est refroidie plus vite. Cela montrerait que les planètes rocheuses ont probablement connu des évolutions similaires au début de leur existence, même si elles sont aujourd'hui très différentes les unes des autres.
Le réseau Fripon trouve sa première météorite. Quelques infos, Michel.
Voilà. À chaque fois qu'on évoque ici les météorites ou les bolides, hein, les grosses météorites qui font un signal lumineux très fort dans le ciel, j'ai parlé du réseau Fripon, qui est le plus grand détecteur du monde pour ses entrées atmosphériques de roches extraterrestres, avec plus d'une centaine de stations déployées sur le territoire français par l'Observatoire de Paris et le Muséum d'Histoire Naturelle. Chacune étant équipée d'une caméra grand champ pour repérer et enregistrer tout bolide 24 heures sur 24. Fripon signifie Fireball Recovery on Interplanetary Observation Network, c'est-à-dire, hein, c'est une traduction de ma part à peu près, réseau d'observation interplanétaire et de récupération des bolides. Ce réseau s'est même étendu à des pays voisins comme l'Angleterre et l'Italie, et c'est justement le réseau du nord de l'Italie, nommé Prisma, qui a enregistré le 1er janvier sur 8 de ses caméras un bolide très brillant, sa magnitude ayant atteint un pic de moins 10, soit environ 100 fois plus brillant que Vénus dans le ciel. En analysant les vidéos, il a été possible de déterminer que l'objet faisait dans les 8 kg lors de son entrée dans l'atmosphère à 12 km seconde, hein, ce qui fait quand même dans les 40 000 km à l'heure, provoquant un échauffement et une érosion telle qu'on estimait environ 150 grammes la masse résiduelle ayant pu atteindre le sol. Mais les enregistrements ont aussi permis de calculer sa trajectoire et définir la zone où le rechercher. Tâche à laquelle se sont attelés les habitants des villages voisins, et l'un d'entre eux a trouvé un petit caillou noirci cassé en deux à seulement 240 mètres de l'impact théoriquement calculé. L'examen par les scientifiques a confirmé qu'il s'agissait bien d'une météorite dont le plus gros morceau fait dans les 4 cm et pèse seulement 52 grammes. Cela confirme l'intérêt du réseau Fripon dont l'objectif à terme serait de pouvoir faire le lien entre une météorite retrouvée et son origine dans l'espace, astéroïde ou comète.
Et on dit que l'étoile Betelgeuse, je ne sais pas si je prononce bien, va peut-être bientôt exploser, Michel.
Oui, Betelgeuse, si je peux me permettre une parenthèse pour savoir comment le prononcer, il y a eu un film il y a des années, Betelgeuse, qui vient de Betelgeuse. Effectivement, nos éditeurs ont pu entendre comme moi dans les médias que les astronomes s'inquiètent de l'évolution récente de cette étoile. Tout d'abord, il faut présenter ce monstre, car il s'agit d'une étoile tout à fait différente de notre tranquille Soleil. C'est une grosse étoile, car elle possède une masse d'environ 15 fois plus grande que celle du Soleil, mais surtout son volume est énorme, car elle a atteint un stade d'évolution proche de sa fin de vie qu'on appelle géante rouge. J'avais évoqué cette question des évolutions stellaires dans ma chronique de fin novembre, et il y a trois notions importantes à rappeler pour Bételgeuse. D'abord, plus une étoile est massive, moins elle dure longtemps, car c'est un peu comme si elle gaspillait son énergie en étant en sur-régime. Bételgeuse a atteint ce stade final après seulement 10 millions d'années environ, selon les estimations des astronomes, alors que notre Soleil, déjà vieux de 4,5 milliards d'années, poursuivra sa vie tranquille encore 5 milliards d'années avant de parvenir à ce stade final. Deuxième point, après une longue période calme où l'étoile convertit par fusion nucléaire l'hydrogène en hélium, vers la fin de sa vie, elle va fusionner l'hélium vers des éléments plus lourds, comme le carbone et l'oxygène. Ces réactions plus énergétiques vont briser l'équilibre de l'étoile pour la faire gonfler. Elle devient géante. Et comme un gaz qui se dilate se refroidit, elle va émettre de la lumière moins énergétique environ dans le rouge. C'est une géante rouge comme Bételgeuse. Mais Bételgeuse fait partie des très grosses géantes rouges avec un diamètre estimé à plus de 1000 fois celui de notre Soleil. Si on la plaçait au centre de notre système solaire, elle absorberait Mercure, Vénus, la Terre et Mars et peut-être même Jupiter. Cette énorme étoile met plus de 30 ans à effectuer une rotation sur elle-même, contre 25 jours pour le Soleil. Troisième point que nous avions vu à propos des évolutions stellaires, les étoiles les plus massives, au moins 8 à 10 fois le Soleil, finissent par une catastrophe très violente, leur explosion en supernova. Un des événements les plus titanesques observables dans l'univers, produisant pendant quelques minutes un éclat égal à celui de milliards d'étoiles. On sait donc que ce sera le stade ultime de Bételgeuse. Depuis qu'on l'observe, on constate que son éclat est variable avec différents cycles qui se superposent. Il y en a un d'environ 150 jours, un autre de 420 et un de 6 ans à peu près. Cela traduit probablement une certaine instabilité de l'étoile qui pulse, c'est-à-dire qu'elle gonfle et dégonfle alternativement. On en a parlé dans les médias car ces dernières semaines, depuis octobre, son éclat a diminué jusqu'à un niveau qu'on n'avait jamais observé aussi bas auparavant. Il est facile de le constater car à l'œil nu, on peut voir qu'elle est en ce moment moins brillante que Rigel, alors qu'elle est en principe l'étoile la plus brillante de sa constellation, Orion, le chasseur, très facile à reconnaître dans le ciel de l'hiver. Actuellement, elle se lève au sud-est en début de nuit noire, vers 19h, et présente la forme de deux trapèzes inversés de part et d'autre de la ligne de trois étoiles qui forment la ceinture de cette silhouette humaine. Au-dessus s'écartent ses deux épaules, Bellatrix à droite et Bételgeuse à gauche, bien reconnaissables à sa teinte orangée typique des géantes rouges. Sous la ceinture, les deux jambes, Saïf et Rigel, d'une couleur bleutée. La survenue de ce minimum d'éclat fait penser qu'on s'approche un peu plus de la fin catastrophique de l'étoile.
Bételgeuse va donc bientôt exploser, Michel ?
Oui, le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas en détail les derniers stades de cette évolution, car on n'en a pas encore observé de près. Donc ce bientôt est à l'échelle astronomique. Ça peut être la nuit prochaine, dans un siècle ou dans 1000 ans, ou même plus. Personnellement, j'aimerais bien être témoin d'une telle explosion un de ces soirs, car ça doit être extraordinaire de voir d'un seul coup un point aussi lumineux se manifester dans le ciel, avec peut-être pendant quelques minutes un éclat comparable à la lumière du jour. Pour fixer les idées, la plus grande supernova historique a été observée en 1054, et pendant 15 jours, elle était tellement brillante qu'on la voyait dans le ciel en plein jour. Et elle est restée le point le plus éclatant dans le ciel pendant 3 mois, plus forte que la planète Vénus, qu'on peut voir en ce moment, briller comme un phare blanc vers l'ouest le soir. À cette époque, la lumière de la supernova était parvenue sur Terre après un voyage de 6300 ans, car l'étoile qui avait explosé était située à 6300 années-lumière de nous. Bételgeuse, elle, n'est qu'à environ 640 années-lumière, soit à peu près 10 fois plus près de nous. Ce qui veut dire qu'une explosion identique à celle de 1054 serait 100 fois plus lumineuse vue de la Terre. Du coup, je me dis que ce n'est peut-être pas une si bonne idée d'être témoin de l'explosion de Bételgeuse, car en dehors de la lumière visible dont nous avons parlé, une supernova émet également des rayonnements plus énergétiques, de longueur d'onde plus courte, comme les rayons X ou gamma, et une telle bouffée de rayonnement intense arrivant sur Terre pourrait s'avérer très dangereuse pour les êtres vivants à sa surface. Donc comme pour d'autres phénomènes puissants et dangereux, tels les éruptions volcaniques ou les tornades, il est préférable de se tenir éloigné des supernovas pour les observer en toute sécurité. Et Bételgeuse, c'est peut-être un peu trop près.
Et bientôt une nouvelle sonde pour surveiller notre étoile.
Oui, je voulais prévenir nos auditeurs d'un prochain lancement dont on devrait entendre parler dans les médias. Dans la nuit du 5 au 6 février, donc mercredi prochain, la sonde Solar Orbiter décollera de Cap Canaveral. Comme son nom l'indique, cette mission de l'ESA, Agence Spatiale Européenne, en coopération avec la NASA, est destinée à observer le Soleil. Elle fait suite à plusieurs sondes spatiales spécialement dédiées à l'observation solaire, en commençant par SOHO, pour Solar and Heliospheric Observatory, de l'ESA et la NASA, lancée en 1995 pour une mission prévue au départ de 4 ans, mais qui fonctionne toujours aujourd'hui, bien que son successeur SDO, c'est Solar Dynamics Observatory de la NASA, ait été lancé en 2010. Tous les deux sont des télescopes spatiaux, nous envoyant en permanence des images du Soleil dans différentes longueurs d'onde, permettant de voir tous les événements se déroulant à sa surface, pour mieux comprendre le fonctionnement de notre étoile et, dans une certaine mesure, prévoir leur incidence sur la Terre. Par exemple, 2 ou 3 jours à l'avance, les aurores boréales ou les perturbations électromagnétiques de nos réseaux de communication. Prévision que chacun peut consulter sur le site Space Weather, ce qui veut dire littéralement météo spatiale. Le 12 août 2018, la NASA a lancé une nouvelle sonde baptisée Parker Solar Observatory qui doit étudier la couronne solaire et le vent solaire qui en provient, un flux de particules dans lequel baignent toutes les planètes. L'objectif serait d'arriver à expliquer l'échauffement de cette espèce d'atmosphère solaire qui s'étend jusqu'à plusieurs millions de kilomètres et dont on ne comprend pas vraiment la température très élevée, dans les 2 millions de degrés, bien plus chaude que la surface du Soleil, dans les 6000 degrés à peu près, alors qu'intuitivement, on pourrait s'attendre à ce que la température baisse au fur et à mesure qu'on s'éloigne. La mission Solar Orbiter sera complémentaire, car elle s'intéressera plus particulièrement au champ magnétique du Soleil, aux particules à haute énergie et donc aussi au vent solaire. Elle pèse environ 1,6 tonnes et sera mise, comme Parker Solar Probe, sur une orbite elliptique autour du Soleil, allant au plus loin à une distance analogue à celle de Vénus et au plus près à seulement 45 rayons solaires, c'est-à-dire à peu près 2/3 de la distance de Mercure au Soleil, ce qui nécessite un bouclier thermique pour protéger ces instruments des hautes températures. Je rappelle qu'il fait dans les 400 degrés à la surface de Mercure. Le lanceur utilisé, une fusée américaine Atlas V, n'est pas assez puissant pour lui permettre d'atteindre directement cette orbite. La sonde suivra donc une trajectoire indirecte, utilisant le survol de planètes, elle va survoler 2 fois Vénus et 2 fois la Terre, pour s'accélérer par la méthode de la fronde gravitationnelle, ce qui lui prendra un peu plus de 3 ans pour atteindre son orbite de travail. Elle ne commencera donc ses observations scientifiques qu'en 2023, lorsqu'elle passera au plus près du Soleil. Sa vitesse analogue à celle de la rotation du Soleil lui permettra d'observer pendant plusieurs jours la même zone de la surface. Par ailleurs, son orbite s'écartera de plus en plus de l'équateur solaire, jusqu'à une inclinaison de plus de 30 degrés, ce qui permettra d'observer les zones polaires dans de meilleures conditions que depuis la Terre, USO ou SDO, qui sont dans le plan équatorial. Donc rendez-vous le 6 février pour confirmer la réussite du lancement, puis 2023 pour des nouvelles de la sonde, si la chronique astro d'eau de radio existe encore à cette époque-là.
Voilà, on verra au moment opportun. Allez, deuxième partie de votre chronique, Michel, vous allez nous parler du sujet et du thème du mois, la spectroscopie.
Alors j'ai souvent évoqué ici les spectres, la spectroscopie, spectrographie ou les spectromètres, mais je n'ai jamais consacré de chronique à cette technique d'observation qui est pourtant fondamentale dans l'astronomie moderne. Et j'ai pensé que l'évocation des sondes spatiales comme Solar Orbiter, dont les instruments comprennent des spectromètres, et surtout les fluctuations de Bételgeuse, nous offre l'occasion de le faire. En effet, si j'espère que nos auditeurs ne doutent pas de la véracité des informations que je leur donne, car j'essaie toujours de les prendre auprès des meilleures sources, ils peuvent légitimement se demander comment peut-on savoir la température, la taille ou la composition chimique des étoiles, alors qu'elles ne sont visibles que comme des petits points, même dans les télescopes les plus puissants. La réponse se trouve en grande partie dans la spectroscopie, c'est-à-dire la décomposition de leur lumière sous forme d'un spectre coloré, exactement comme le font les gouttes de pluie avec la lumière solaire pour former un bel arc-en-ciel. Je laisserai juste de côté la détermination de la distance des étoiles que j'ai déjà expliquée ici et qui passe par la méthode de la parallaxe, c'est-à-dire le petit décalage de l'étoile par rapport à un objet plus lointain, par exemple une galaxie, lorsque la Terre effectue sa révolution autour du Soleil. Historiquement, on doit la décomposition de la lumière en spectre par un prisme de verre, ou à l'inverse, la recomposition de la lumière blanche par rotation rapide d'un disque formé de secteurs colorés à Isaac Newton. Ce physicien anglais du XVIIe siècle est surtout connu pour sa théorie de la gravitation, qui joue un rôle très important en astronomie, mais il a aussi mené des recherches dans le domaine de l'optique, publié en 1704 dans un traité intitulé tout simplement « Optics », où il étudie la réflexion, la réfraction, la diffraction et les couleurs. Il a d'ailleurs inventé le télescope qui porte son nom, hein, on dit un télescope de Newton. Dans son ouvrage, il relate notamment l'expérience consistant dans une pièce sombre à faire traverser un prisme de verre à un rayon de soleil en produisant un étalement des couleurs de l'arc-en-ciel. Baptisant ce phénomène spectre, par analogie avec un fantôme, il a donné le nom qui se décline en spectroscopie quand on observe directement le spectre, spectrographie quand on le prend en photo, etc. Il démontre donc ainsi que la lumière apparemment blanche du Soleil est en fait la composition d'un ensemble de rayons de couleurs, et on sait aujourd'hui que ces couleurs correspondent à différentes longueurs d'onde qui sont séparées dans un prisme car leur diffraction est légèrement différente pour chaque longueur d'onde. C'est en procédant à cette décomposition de la lumière des étoiles collectée par les télescopes qu'on en apprend beaucoup plus à leur sujet.
Et par exemple, cela permet de connaître leur température ?
Oui, car il y a un lien entre couleur et température. Imaginons qu'on chauffe une barre de fer de plus en plus fort. Au départ, elle n'émet pas de lumière, mais on sait qu'en fait, elle rayonne dans l'infrarouge, qui est invisible à nos yeux, mais pourrait être observée avec une caméra thermique, sensible à ses grandes longueurs d'onde. Plus chaude, elle va prendre une teinte rouge sombre, puis rouge plus clair, puis orangé. On ne peut guère aller plus loin car ensuite l'acier ou le fer vont fondre. Mais si on le pouvait, on la verrait devenir verte, puis bleue, puis mauve, avant de ne plus émettre de lumière visible car elle atteindrait des longueurs d'onde invisibles pour nos yeux qu'on appelle l'ultraviolet. On peut par exemple voir du bleu dans la partie la plus chaude d'une flamme de gaz, d'une cuisinière ou d'une chaudière. On constate donc qu'il y a un lien entre température et couleur de la lumière émise et que plus c'est chaud, plus ça se décale du rouge vers le bleu. Ce lien correspond à la loi de Planck, du nom de ce physicien allemand qu'il a étudié en 1900. Un corps chaud émet dans toutes les longueurs d'onde, mais si on trace la courbe de l'intensité émise en fonction de la longueur d'onde, on obtient une courbe qui monte depuis les courtes longueurs d'onde, hein, donc ce qui correspond au violet et au bleu, pour atteindre un maximum avant de redescendre. Et si on compare les courbes obtenues à différentes températures, on s'aperçoit de deux effets. Plus la température est haute, plus le maximum est haut, car plus d'énergie est émise. Et plus il est dans les courtes longueurs d'onde, donc bleu si très chaud, et rouge pour du moins chaud, comme la barre de fer. Il suffit donc de décomposer le spectre d'une étoile et de mesurer la luminosité de chaque longueur d'onde, ce qui est très facile à faire à partir d'une photo numérique du spectre, pour voir où se situe le maximum, par exemple dans le jaune pour le soleil, dont la température de surface est de l'ordre de 6000 degrés, bleu pour des étoiles chaudes comme Rigel ou les Pléiades, de l'ordre de 8 à 10 000 degrés, rouge pour des étoiles plus froides, si on peut dire, hein, comme Bételgeuse, dans les 4000 degrés ou moins. Le spectre donne donc assez facilement la température d'une étoile.
Et sa taille aussi ?
Oui, tout de suite après sa température. En mesurant sa luminosité, le flux lumineux reçu sur Terre, ce qu'on pourrait appeler sa magnitude apparente, et en connaissant sa distance par la méthode de la parallaxe, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut calculer sa luminosité absolue, c'est-à-dire l'énergie qu'elle émet sous forme de lumière. Or, en 1879, le physicien austro-hongrois Joseph Stefan a découvert expérimentalement une loi physique, expliquée ensuite théoriquement par un de ses étudiants en 1884, Ludwig Boltzmann, et on la connaît donc sous le nom de loi Stefan-Boltzmann. Elle donne une relation entre la température d'une étoile, sa luminosité et sa taille. C'est comme cela que l'on peut calculer le rayon d'une étoile quand on a déterminé sa température et sa luminosité. J'ai essayé de faire le calcul moi-même à partir des données de Bételgeuse. Elle a une température de surface de 3900 degrés environ, qu'on trouve avec son spectre. Elle est distante de 640 années-lumière à peu près, ce qu'on mesure avec la parallaxe. Et sa magnitude apparente, donc sa luminosité sur Terre, est de 0,45. Ces deux dernières valeurs permettent de calculer la luminosité de Bételgeuse absolue, qui est d'environ 63 000 fois celle du Soleil. Et l'application de la loi de Stefan Boltzmann m'a donné un rayon de 960 fois celui du Soleil. Ce qui n'est pas si mal, car on trouve une fourchette, selon les sources, entre 950 et 1200 fois la taille du Soleil.
Et pour la composition chimique, alors ?
Alors, c'est le principal apport de la spectrométrie. On peut facilement trouver sur Internet des spectres d'étoiles bien connus, et en particulier celui du Soleil. Je crois d'ailleurs que j'ai envoyé un lien pour le spectre du Soleil. De prime abord, cela semble la suite continue de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais si on regarde de plus près, donc optiquement en étalant le spectre un peu plus, on peut s'apercevoir qu'il existe de fines lignes noires qui strient ce beau spectre continu. Si on fait le spectre non plus d'étoiles, mais de nébuleuses, on verra alors qu'il y a des lignes de couleurs bien séparées au lieu d'un spectre continu. Bien entendu, il faut un dispositif optique très précis pour les mettre en évidence d'une manière scientifiquement exploitable. Mais avec un bricolage tout simple, basé sur un CD-ROM, hein, tout le monde a déjà remarqué que quand on éclaire la face enregistrée d'un CD-ROM, ça produit une sorte d'arc-en-ciel, et une boîte en carton pour former une chambre noire où ne pénètre qu'un fin rayon lumineux, on peut déjà voir dans le petit spectroscope de fortune qu'on peut se bricoler, des raies sombres dans le spectre solaire, ou des raies lumineuses si on observe des sources artificielles comme un tube néon par exemple. Ces deux phénomènes sont les deux versions, en positif et en négatif, de ce qu'on appelle des raies spectrales et qui ont été mises en évidence dès le XVIIIe siècle avec la première observation de la raie d'émission du sodium en 1752, puis plus tard d'une raie d'absorption en 1802, ce qui a progressivement donné naissance à la spectroscopie dans les années 1880. Pour expliquer ces phénomènes, il faut s'intéresser à l'interaction entre la lumière et la matière, qui est basé sur des petites quantités d'énergie appelées quantum par Einstein en 1905, quand il a étudié l'effet photoélectrique, ce qui lui a valu le prix Nobel de physique en 1921. Au pluriel, quantum devient quanta, d'où on a tiré quantique, pour désigner la physique quantique qui s'intéresse aux phénomènes dans l'extrêmement petit, les particules et les atomes. et dont l'un des principaux fondateurs fut aussi Max Planck, dont on a déjà parlé à propos de la relation entre couleur et température. Pour faire simple, imaginons un atome de l'élément le plus courant de l'univers, c'est-à-dire l'hydrogène, tranquillement installé au cœur d'un immense nuage qu'on appelle nébuleuse. Sauf qu'à un moment, il est frappé par un rayonnement très puissant, par exemple un rayon X émis par une jeune étoile très puissante se trouvant dans le voisinage. L'atome absorbe cette énergie avec son électron qui va changer de niveau d'énergie dans ses mouvements autour du proton, qui constitue le noyau de l'atome d'hydrogène. Mais ensuite, il va revenir à son niveau d'énergie habituel en émettant à son tour un rayonnement électromagnétique. Dans la théorie des quantas, cette lumière émise correspond à une longueur d'onde typique de l'élément, et ce pourra être, par exemple pour cet atome d'hydrogène, celle qu'on appelle Hα, qui donne aux nébuleuses, dites en émission, cette belle couleur rouge sombre qu'on voit sur de nombreuses photos. Si on décomposait la lumière de cette nébuleuse en spectre, on y verrait briller l'arrêt de cette couleur bien particulière. Comme il y a de nombreuses transitions de niveau d'énergie possibles dans l'atome d'un élément particulier, il existe tout un système de raies à des longueurs d'onde bien précises qui sont caractéristiques de cet élément et qu'on peut étudier en laboratoire pour savoir ensuite les reconnaître dans les spectres des étoiles ou des nébuleuses. Pour simplifier, j'ai l'habitude de dire aux élèves que c'est un peu comme un code-barre permettant d'identifier l'élément, comme à la caisse du supermarché où chaque produit peut être identifié par son code-barre unique. Dans les spectres des étoiles, ça marche en négatif. Un atome d'hydrogène froid qui se trouve dans l'atmosphère du Soleil va s'exciter en prélevant dans la lumière solaire qui le traverse exactement les mêmes longueurs d'onde qui vont donc apparaître comme des raies sombres striant le spectre au départ continu de la lumière stellaire. C'est ainsi qu'on peut savoir quels éléments sont présents dans l'atmosphère d'une étoile, donc forcément dans l'étoile elle-même. Et plus l'élément est abondant, plus il prélève d'énergie, plus la raie est sombre. L'arrêt correspondant au Hα de l'hydrogène est la plus facile à repérer dans le spectre du Soleil ou de toutes les autres étoiles. En dessinant la courbe de luminosité du spectre pour chaque longueur d'onde, la profondeur de ces trous, les raies d'absorption, permet donc de connaître l'abondance relative de chacun des éléments dans la composition chimique de l'étoile. C'est ainsi qu'on peut connaître les compositions chimiques d'étoiles situées à des dizaines ou des centaines d'années-lumière de nous et qui n'apparaissent que comme des petits points, même en les observant avec les télescopes les plus puissants. Et ce n'est pas tout.
Oui, vous voulez dire qu'on peut en savoir encore plus ?
Effectivement, et c'est un peu la cerise sur le gâteau, l'effet Doppler-Fizeau, dont nous avons parlé le mois dernier, celui qui décale les sons vers l'aigu quand un véhicule s'approche de nous et vers le grave quand on s'éloigne. D'ailleurs, je crois qu'on peut entendre ce son. Appliqué à la lumière des étoiles, il décale les spectres vers le bleu quand l'étoile s'approche de nous, et le rouge quand elle s'en éloigne, ce qui permet de connaître ce qu'on appelle sa vitesse radiale, c'est-à-dire sa vitesse mesurée dans la direction entre la Terre et l'étoile. Et cela peut nous apprendre beaucoup de choses. Par exemple, que deux étoiles forment un système binaire tournant l'une autour de l'autre, car leur spectre montre qu'une vient vers nous quand l'autre s'en éloigne. Ou comme je l'ai expliqué la semaine dernière, savoir par le mouvement oscillant d'une étoile qu'une planète orbite autour d'elle. Ou à grande échelle, détecter dans notre galaxie, la Voie lactée, de grands courants d'étoiles se déplaçant de concert, ce qui permet d'imaginer sa structure, par exemple des bras d'une spirale qui tourne autour de son centre, et même d'essayer de reconstituer son histoire en détectant des ensembles d'étoiles ayant un mouvement globalement similaire et qui peuvent correspondre à des petites galaxies que la Voie lactée aurait capturées et absorbées. Et si on regarde l'univers à plus grande échelle, les mouvements des galaxies mesurés avec ces décalages de leur spectre a permis à Edwin Hubble de détecter dans les années 1920 l'expansion de l'univers, origine de notre théorie actuelle du Big Bang. Comme on le voit, cette simple, si je peux dire, décomposition de la lumière des objets célestes sous forme de deux spectres est la source d'une connaissance beaucoup plus riche de notre environnement cosmique et a permis d'approfondir énormément notre compréhension de l'univers.
Troisième partie de votre chronique, le ciel du mois.
Alors comme chaque mois, je vais rapidement évoquer le ciel du mois de février en renvoyant plutôt les auditeurs vers la rubrique ciel du mois de notre section astronomie de notre site web www.constellationsetgalaxies.org pour voir les cartes du ciel correspondantes. C'est difficile de faire des dessins à la radio et avoir un peu plus de détails. Alors pour le moment, c'est encore le ciel de janvier qui est en ligne et je pense qu'à la fin de la semaine, je mettrai en ligne celui de février. Depuis le solstice d'hiver du 22 décembre, les jours rallongent et la nuit vient un peu plus tard. En ce moment, le soleil se couche vers 18h et la nuit noire arrive à peu près à 19h. À la fin février, le coucher sera vers 18h45 et la nuit un peu avant 20h. Comme nous sommes encore en début de l'hiver, En tout début de nuit, le ciel est partagé entre les constellations du ciel de l'automne, comme Pégase, qui occupe la moitié ouest, et celles de l'hiver, comme Orion, qui occupe la moitié est et ne sont pas encore totalement levées. Fin février, en début nuit, Orion sera plein sud, et ce sont déjà les constellations du printemps qui commenceront à apparaître à l'est. L'ensemble des constellations d'hiver se repère avec le grand G de l'hiver, formé par les étoiles les plus brillantes autour d'Orion et se terminant par ses épaules, Bételgeuse et Bellatrix. Cette figure permet de parcourir, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, toutes les constellations typiques de l'hiver, le taureau, le cocher, les gémeaux, le petit et le grand chien, et Orion au centre. Côté planète, il ne reste plus que Vénus le soir, brillante comme un phare dès le crépuscule, et visible en ce moment jusque vers 21h30. Fin février, ce sera jusqu'à 22h30. Le matin, c'est Mars qu'on peut voir, encore assez peu brillant, pas plus qu'une étoile très brillante, mais bien reconnaissable à sa couleur orangée. En ce moment, il se lève vers 5h, et ce sera un petit peu plus tôt, fin février. À noter qu'en ce moment, il est encore dans le voisinage de l'étoile Antares, et a une couleur très similaire, ce qui lui a valu son nom qui signifie « l'autre Mars » en grec. Vers la fin février, on commencera à voir réapparaître Jupiter dans le ciel de l'aube. Comme les planètes visibles sont peu nombreuses, il y a peu de conjonctions avec la Lune. Le matin du mardi 18, le croissant de Lune sera assez proche de Mars, un peu plus que la largeur d'un doigt bras tendu. Le soir du mercredi 27, c'est la très brillante Vénus qui sera accompagnée par un fin croissant de Lune et sa lumière cendrée, c'est-à-dire le faible éclairage de la zone ombrée, car elle reçoit un peu de la lumière du soleil réfléchie par la Terre. On a pu voir une situation similaire hier soir entre les nuages. Et pour finir le mois, le 29 février, qui est un phénomène astronomique, car les années bissextiles proviennent du mouvement de la Terre autour du Soleil, comme j'aurai sans doute l'occasion de l'expliquer lors de la prochaine chronique à propos du calendrier, qui devrait en principe être le mercredi 27 sur l'antenne d'O2 Radio.
Voilà, merci Michel pour tout ce travail. On parlera bien sûr de la prochaine chronique. Et celle-ci, la chronique Astro numéro 63, va retrouver ses petites sœurs ou cousines donc sur le site Constellations et Galaxies. Donc vraiment un grand merci Michel pour tout ce travail de restitution à l'antenne. On ne va pas se quitter comme ça, hein, bien sûr. On va rappeler le site Constellations et Galaxies. Alors je disais, on peut retrouver toutes les chroniques archivées, mais des infos de l'actu, quand vous faites des références à des cartes ou des liens, on peut les retrouver sur ce site.
Oui, pour le ciel du mois, c'est quand même plus facile de repérer les constellations sur des cartes. Au micro, je n'ai pas encore trouvé le moyen pour faire des cartes, parvenir des cartes aux auditeurs.
Allez, quelques mots sur Constellations des Galaxies. C'est important de le rappeler, même donc, si ça peut paraître redondant de répéter, mais c'est important.
Association qui diffuse la connaissance scientifique, et en particulier dans le domaine de l'astronomie, et notamment avec un planétarium itinérant qui peut se rendre aussi bien dans des écoles, des collèges que d'autres structures comme des associations,
des associations
foyers,
sur une semaine, un événement particulier. Voilà. Bon, il y a un cahier des charges bien sûr à remplir.
La dernière intervention, c'était il y a un peu plus d'une semaine, le 18 janvier, à l'occasion de la nuit de la lecture, où une médiathèque, alors je ne sais même pas que ça existait, c'est Brache, près de Lacanau, m'a fait venir pour montrer le ciel au public, puisque leur thématique était autour du ciel, des planètes et des étoiles. Et donc, on a aussi la partie astronomie sur le site, avec ces fameuses cartes du ciel, les explications de tous les événements du mois. Ici, je donne que les principaux. Et la rubrique chronique aux deux radios, où on retrouve toutes les chroniques depuis la première, qui remonte à plus de 5 ans. Ça fait 5 ans et quelques mois qu'on pratique ça régulièrement.
Constellationsetgalaxies.org pour le site. Merci Michel. On se voit le mois prochain.
Le 27 en principe.
27 février.
Voilà.
Voilà, j'ai pas revérifié sur le calendrier, mais j'ai
parfaitement
confiance. Voilà, donc il y a pas de souci. Allez, merci à vous Michel. On se revoit à la fin du mois prochain, donc 27 février, le mercredi, même endroit, même heure.